Bonjour à tous. Je suis vraiment content que vous puissiez mettre du temps à part pour vous connecter et écouter cet enregistrement. J'espère que cela nous encouragera tous en ces temps un peu particuliers et difficiles. Aujourd'hui, dans le cadre de notre série de prédications en ligne, La Parole du Dimanche, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi en Romains chapitre 14. Et nous lirons ensemble du verset 1 jusqu'au verset 12. Romains chapitre 14, versets 1 à 12. Et Olivia fera la lecture.
Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout, l'autre, qui est faible dans la foi, ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas. Et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux. Que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qui le fait, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout le fait aussi pour le Seigneur, et il est reconnaissant envers Dieu. En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort. Il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ. Car il est écrit: Je suis vivant, dit le Seigneur. Chacun pliera le genou devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même.
Merci, Olivia. L'église de Rome est fréquentée par des hommes et des femmes venant d'horizons différents. Nous savons cela car tout au long de l'épître aux Romains, nous constatons que l'apôtre s'adresse tantôt à des personnes d'arrière-plan juif. Cela apparaît clairement par exemple au chapitre 2, verset 17, où Paul dit « Toi qui te donnes le nom de juif » et tantôt à des païens, des non-juifs, des personnes qui sont de culture gréco-romaine. Et nous voyons cela par exemple au chapitre 11, verset 13, où Paul dit « À vous qui êtes d'origine païenne ». D'après ces versets, nous pouvons donc conclure que la lettre est adressée à des chrétiens d'origine juive, mais aussi à des chrétiens d'origine païenne. L'Église de Rome est donc constituée de personnes qui viennent d'arrière-plans différents, d'horizons différents et de cultures différentes. Telles ont grandi selon la loi, la culture, la tradition juive. D'autres sont étrangers à cette culture juive et ont grandi avec la culture gréco-romaine. Il y a donc une diversité de gens, diversité d'opinions et diversité de pensées. Et tout cela, ça forme une église. Avec tout ce qui vient d'être dit, nous comprenons bien que l'église à Rome est loin d'être homogène. Et on peut bien s'imaginer, essayer de deviner ce qu'un tel mélange pourrait produire. Je ne sais pas pour vous, mais lorsqu'arrive la période des fêtes de fin d'année, moi je suis un peu dans la crainte, je suis un peu anxieux. Et si je le suis, c'est parce qu'à cette période, je fais subir à mon estomac des choses qui ne devraient pas être autorisées. Un peu de champagne par-ci, un peu de pain par-là, et si on ajoutait du jus de pomme, et oui, j'ai pas encore pris de viande, alors je vais prendre un peu de viande, et les fruits de mer. J'aime tellement les fruits de mer. Et pourquoi pas des chips et de la glace pendant qu'on y est. Et comme tout bon Belge qui se respecte, un repas sans moule sans frites, sans un peu de gaufre, sans un peu de bière, ce ne serait pas un vrai repas, n'est-ce pas? Et puis, on mélange le tout avec du soda. Et l'affaire est pliée. Toutes ces choses se retrouvent dans mon estomac. Et on comprend tous qu'avec cette diversité d'aliments dans mon estomac, c'est les maux de ventre assurés. Après un tel repas, je me tords de douleur, allongé sur mon lit. La fête est gâchée. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Autant de personnes venant d'arrière-plans différents, ayant des opinions différentes, ça ne va pas fonctionner. Et nous devons admettre que généralement, c'est ce qu'il se passe. Des opinions différentes qui mènent à des querelles, qui mènent à la division, qui se terminent par la séparation. C'est ce qui était en train de s'amorcer dans l'église de Rome. Et c'est ce qui est peut-être en train de s'amorcer dans nos églises. Il y a des Belges, des Français, des Congolais, des Camerounais, des Roumains, des vieux, des moins vieux, des jeunes, des plus jeunes. Autant de diversité, autant d'opinions. Cela risque de ne pas fonctionner. Paul va donc écrire à cette église pour leur rappeler quel est le mot d'ordre, ce qui est fondamental au sein d'une communauté chrétienne. Acceptez votre frère qui a des opinions différentes, sans juger, sans mépriser. Recherchez activement l'unité. La raison de cela ? Parce que vous êtes redevables au Seigneur. Et c'est le titre de la prédication. Vous êtes redevables au Seigneur. Ce passage nous présente trois raisons pour lesquelles nous sommes redevables au Seigneur. Trois raisons qui doivent impacter fortement et transformer la façon dont nous vivons nos relations avec nos frères et sœurs en Christ. Trois raisons pour nous inciter à rechercher activement l'unité et l'amour fraternel. La première raison pour laquelle nous sommes redevables au Seigneur et qui doit nous inciter à rechercher activement l'unité et l'amour fraternel est donnée au verset 1 à 4. Et ce sera notre premier point. Redevables au Seigneur car il nous a accueillis. Paul va prendre un premier exemple de différence d'opinion entre les chrétiens de Rome. Nous l'avons dit tantôt, l'église de Rome a la particularité d'avoir en son sein des chrétiens venant d'horizons différents et ayant des arrière-plans différents. D'un côté, il y a les chrétiens de culture gréco-romaine pour qui vraiment la question de manger et de boire n'est pas un problème. Effectivement, pour eux, on peut consommer de tous les aliments sans problème. Et de l'autre côté, nous avons les chrétiens d'arrière-plan juif. Nous savons que la loi mosaïque, la tradition juive, est assez stricte en ce qui concerne les aliments. En effet, il est interdit pour un juif de consommer certains aliments, car ils sont considérés comme impurs. Par exemple, la viande de porc était et est toujours formellement interdite à la consommation dans la tradition juive. Et ces personnes d'arrière-plan juif, lorsqu'ils viennent à Christ, après leur conversion, eh bien, leurs habitudes, leurs traditions, leur culture de toute une vie ne disparaissent pas. Elles sont encore là, bien présentes. Et c'est la situation que l'apôtre Paul décrit au verset 2. D'un côté, nous avons la position des chrétiens qui mangent que des légumes, et de l'autre côté, la position des chrétiens qui mangent de tout, de la viande, sans aucun problème. Et ce que nous apprenons, c'est que ceux qui mangent de la viande sont également décrits par l'apôtre comme étant ceux qui sont forts dans la foi. Ceux qui ne mangent que des légumes sont décrits par l'apôtre comme étant ceux qui sont faibles dans la foi. Mais comment comprendre cette notion de faiblesse et de force dans la foi ? Est-ce que nous devons comprendre que certains parce qu'ils sont forts dans la foi, bénéficient de plus de bénédictions, que leurs prières sont plus efficaces, qu'ils sont les champions et les meilleurs de l'Église, et qu'au contraire, ceux qui sont faibles dans la foi seraient les losers de l'Église, ceux qu'on ne doit pas fréquenter, ceux qu'on doit éviter. Eh bien non. Ce que nous devons comprendre de cette description, de ce constat, c'est que celui qui est faible limite par un manque de conviction ce que Dieu permet, alors que le fort, lui, se permet tout ce que Dieu permet. Pour bien nous aider à comprendre cela, essayons de nous représenter dans notre esprit un cadre. Ce cadre représente tout ce que Dieu permet. Et c'est la Bible qui définit ce cadre. Et à l'intérieur de ce cadre, il est possible de faire tout ce que Dieu permet sans jamais pécher. Il est évident qu'en dehors de ce cadre, ce serait clairement péché. Et donc, le faible dans la foi va restreindre. Il va rendre le cadre plus petit. Il ne pêche pas, puisqu'il reste dans le cadre que Dieu autorise. Cependant, il va considérablement limiter ce que Dieu permet. Dieu a créé tous les aliments bons à manger, même le cochon. Mais le faible, par manque de conviction, n'en mangera pas. Et donc, il restreint ce que Dieu permet. Le fort, lui, qui a une conscience forte, qui connaît et qui considère tout ce que Dieu permet, fort de cette connaissance, va jouir sans se restreindre de tout ce que Dieu permet. Lui non plus ne pêche pas, car il est dans le cadre que Dieu permet. Et ces différences d'opinion mènent à des discordes, à des disputes, où chacun cherche à prendre le dessus sur l'autre. Et face à ce débat, on aurait pu s'attendre à ce que l'apôtre mette fin à tout cela, en déclarant quel est le groupe vainqueur du grand débat théologique. Mais il ne le fait pas. Silence. Et c'est surprenant. Car on aurait aimé, on aurait voulu qu'il donne son avis clairement, qu'il tranche en quelque sorte, pour nous donner raison, pour nous justifier. « Ah, je te l'avais bien dit, c'est moi qui avais raison. Dieu permet d'avoir une batterie, une guitare électrique, une basse pendant la louange le dimanche matin. Et si Dieu le permet, alors ça doit être fait. » Mais non, silence de la part de Paul. Et ce silence montre que sa préoccupation ne porte pas tant sur des détails, des questions théologiques, doctrinales, secondaires, mineures, mais plus sur l'aspect relationnel, sur l'aspect social au sein de l'Église. Sa principale et seule préoccupation ici, c'est l'unité dans l'Église. Les Romains sont peut-être les champions des débats théologiques, mais ils sont encore des amateurs et beaucoup à apprendre en ce qui concerne l'amour, l'accueil, l'unité, la solidarité envers le prochain, qui est de loin le plus important aux yeux de Dieu. Et cela se voit clairement dans les exhortations que l'apôtre Paul leur adresse. Il emploie trois impératifs qui évoquent tous l'aspect relationnel. Exhortation au fort. Toi le fort, accueille les faibles sans jugement d'opinion, au verset 1. Toi le fort, ne méprise pas les faibles, au verset 3. C'est-à-dire, obligation de se mettre à leur écoute, de les accepter, de les agréer, de les respecter, d'être dans la joie avec eux, de les aimer, sans chercher à les changer, eux, et leurs opinions. Exhortation pour le faible. Toi, le faible, ne juge pas les forts. Au verset 3. En y réfléchissant, nous-mêmes, nous sommes repris. Nous passons parfois plus de temps à débattre sur des questions secondaires avec mépris et jugement, plutôt que de rechercher l'unité et l'amour entre nous. Certains d'entre nous, forts dans nos convictions, pensons « Regarde-moi ce frère, il ne sait pas ce que c'est que la liberté chrétienne. Il croit encore que pour l'offrande, c'est la dîme et rien d'autre. 10% de son revenu. Si seulement il savait que nous vivons sous la grâce. Dieu n'exige pas absolument 10%. Il n'exige pas un montant exact. Notre offrande pourrait être 100%, 60%, 50% de notre revenu. De toute manière, ça ne m'étonne pas de lui. C'est un légaliste. Attention, mes amis, pas de mépris. La famille de ce frère est chrétienne depuis 5 siècles. Ils ont depuis toujours donné la dîme, sans jamais y manquer. Et ça s'est transmis de génération en génération. Et gloire à Dieu pour cela. 500 années d'héritage. Ça marque, ça façonne une personne. Certains d'entre nous, faibles dans nos convictions, pensons peut-être « Scandale ! Cette sœur ne donne que 3% de son revenu. » Pourtant, la Bible est claire. Elle enseigne qu'en tant que croyants, nous sommes dans l'obligation de donner 10% de notre revenu. Et elle croit vraiment être croyante ? Elle croit aimer Dieu ? Attention encore, les amis. Notre conscience ne doit pas empêcher les autres à faire ce qu'ils font et les culpabiliser. Cette sœur n'a qu'un mi-temps et ne peut offrir que 3% de son revenu. Et certains mois, elle ne donne même rien du tout. Mais tous les samedis matins, elle offre au Seigneur 3 heures de son temps pour faire le ménage dans le bâtiment de l'Église. Oui, il est des moments où nous sommes plus des usines en mode production de conflits, de division, que des usines en mode production d'amour et d'unité. Et si c'est le cas, alors nous sommes clairement en tort. Nous sommes en train de faire ce qui ne doit pas être fait. Nous péchons, et c'est très grave. Et si c'est le cas, nous devons nous repentir. Nous devons demander pardon à Dieu d'abord et à nos frères et sœurs ensuite pour de tels agissements. Au verset 4, voyez comment l'apôtre Paul reprend sévèrement et avec vigueur les chrétiens qui agissent de la sorte. Nous devons fuir les querelles, nous devons fuir le mépris et le jugement. L'exhortation qui nous est faite est clairement la recherche active de l'unité et de l'amour fraternel. S'accueillir, être unis, s'aimer, c'est une obligation pour tout chrétien. Et la raison pour cette obligation ? Fin du verset 3. Car Dieu nous a accueillis. Dieu nous a accueillis. Et de quelle manière nous a-t-il accueillis ? Eh bien, nous le voyons en Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions nus, misérables, pécheurs, odieux, impurs, souillés, notre Dieu, notre Seigneur saint, n'a pas hésité à nous accueillir en Christ. Quel accueil! Quel accueil de la part de notre Seigneur! Quel merveilleux point commun nous avons tous, malgré nos différences! Il nous a accueillis. Et nous lui sommes infiniment redevables. Alors cet accueil du Seigneur doit nous pousser, nous motiver à rechercher activement l'unité et l'amour avec nos frères et sœurs. Alors, pourquoi pas, dès que nous le pourrons, après le coronavirus, aller discuter avec des personnes de l'Église avec qui nous n'avons jamais discuté, bien que cela fait 10 ans que nous nous croisons que nous fréquentons la même église, parce qu'on pense que non, on ne s'entendra jamais, on est trop différent. Mais plutôt, ayons en tête cette vérité, que la personne que nous avons en face de nous a été accueillie, a été acceptée, comme nous l'avons été, par le Seigneur. Et en fait, pourquoi attendre la fin du coronavirus? Pourquoi ne pas dès maintenant, par téléphone, contacter cette personne avec qui on ne s'entend peut-être pas très bien pour lui dire qu'on pense à elle? Et pourquoi ne pas aller plus loin et prendre l'engagement dès cette semaine de prier pour cette personne pendant les semaines de confinement à venir? Non pas que Dieu change, la change, qu'elle puisse penser comme nous, mais prier pour sa santé, pour sa croissance spirituelle, pour sa sanctification. Prier pour son bien. Paul continue versets 5 à 9 et va nous donner une seconde raison pour nous inciter à rechercher activement l'amour fraternel et l'unité. Et ce sera notre deuxième point. Redevable au Seigneur, car Christ nous a rachetés, nous lui appartenons. Au verset 5, Paul nous donne un deuxième exemple de différence d'opinion rencontrée dans cette église à Rome, qui peut causer des divisions. Et c'est une histoire maintenant de calendrier. Visiblement, les chrétiens de Rome ne sont pas d'accord sur le calendrier à adopter. Faut-il adopter le calendrier juif, avec toutes ces fêtes qu'il faut célébrer et scrupuleusement respecter? Ou bien faut-il adopter le calendrier julien, qui ne fait aucune différence entre les jours? Tous les jours sont les mêmes, d'égale importance. La question n'est pas facile. Et on s'imagine bien que les membres de cette communauté ont dû débattre pendant des jours, voire des semaines avec passion. Et nous-mêmes, nous nous retrouvons parfois à débattre sur des questions difficiles. Le dimanche est-il le jour, le seul, qui doit être consacré au Seigneur? Un jour sans travail, sans aucune autre activité pour pouvoir se consacrer entièrement à l'adoration du Seigneur. Certains diront, eh bien, si ce n'est pas respecté, au mieux, c'est ne pas aimer Dieu. Au pire, c'est ne pas être chrétien. Évidemment que le dimanche est le jour du Seigneur. La preuve de ça, en Belgique, tout est fermé le dimanche. Personne ne travaille. D'autres diront, dimanche, lundi, jeudi, mardi, quelle différence? Nous vivons sous la grâce. Tous les jours sont une occasion et un appel pour adorer et rendre gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'ils peuvent être légalistes, ceux qui ne pensent pas comme nous? Encore une fois, chose surprenante, comme pour le premier exemple, l'apôtre Paul ne dit rien quant à la position à adopter. Il ne tranche pas. Et certains ont sûrement été déçus au sein de l'Église, car beaucoup auraient aimé une réponse qui serait adaptée à tout le monde et qui irait dans leur sens. En effet, nous aimerions que notre manière de penser devienne la norme pour tous les chrétiens. Mais l'apôtre va rester neutre. Et chose encore plus surprenante, il dit que chacun est une pleine conviction de ce qu'il fait. Ayez des convictions, c'est une bonne chose. Mais cela n'aurait-il pas la conséquence, pour conséquence d'exacerber, d'amplifier encore plus les tensions? Eh bien oui, il faut le dire. Les tensions, les querelles seront plus nombreuses et plus fortes si nous n'avons pas une juste compréhension de l'opinion de l'autre. Mais si nous avons une juste et bonne compréhension qu'enseigne la Bible sur l'origine de l'opinion de mon frère ou de ma sœur, alors nous réagirons différemment envers eux. Sans aigreur ni rancune, sans mépris ni jugement, mais plutôt avec amour, avec bienveillance, remplis de patience, prêts à les accueillir, à les écouter, à les comprendre. Encore une fois, la préoccupation de l'apôtre se situe sur le plan relationnel. L'unité, l'amour au sein de l'Église. Et la bonne manière de comprendre l'opinion de nos frères et sœurs qui pensent différemment de nous est donnée au verset 6. Si un tel pense que le dimanche, on ne doit pas travailler et qu'on doit se consacrer à l'adoration du Seigneur, eh bien, c'est pour le Seigneur qu'il le pense et qu'il le fait. Si un tel pense que dimanche, jeudi, mardi, mercredi sont tous des occasions et des appels pour adorer, louer Dieu, c'est pour le Seigneur qu'il le pense et qu'il le fait. En effet, si toutes nos opinions ne sont pas formellement et clairement condamnées par la Bible, alors notre frère, notre sœur, nous-mêmes, pensons et faisons toutes ces choses pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur. Mes amis, nous devons croire dans les bonnes intentions des membres de notre assemblée. En principe, quand un membre de notre Église agit, pense différemment de nous, ce n'est pas contre nous. Ce n'est pas pour nous embêter, pour nous enquiquiner ou pour nous narguer. Non. Mais bien parce qu'il croit profondément que son opinion plaît à Dieu. Avant d'accuser un frère d'être anathème, d'être un inconverti ou d'être un hérétique, prenons le temps de voir si son opinion est clairement réfutée par la Bible ou non. Si ce n'est pas le cas, alors faisons l'effort d'aller à sa rencontre, de l'écouter activement, en étant concentré sur ce qu'il dit, en essayant de comprendre son point de vue, sa situation familiale, sa situation sociale, culturelle, son passé, son histoire. Car toutes ces choses nous aideront à comprendre son opinion. Et dans cette perspective de passer du temps ensemble pour apprendre à se connaître, et bien évidemment après le coronavirus, n'hésitons pas à ouvrir nos maisons en invitant tel frère, telle sœur pour partager un repas, un café et favoriser les discussions plus profondes. En effet, nous sommes frères et sœurs en Christ, appartenant à la même grande famille. Alors, ne nous satisfaisons pas d'un simple « Hey, bonjour, comment ça va ? Bien ? Eh bien, moi aussi je vais bien. Allez, au revoir et à dimanche prochain !» Non. Si nous faisons cet effort de rechercher activement l'amour et l'unité, alors à ce moment-là, nous nous rendrons compte que nous nous trompions au sujet d'un tel ou d'une telle. Et qu'en réalité, s'ils ont une opinion différente de la nôtre, eh bien c'est pour le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'ils savent, tout comme nous savons, que nous lui appartenons. Oui, si nous appartenons au Seigneur, c'est parce que Jésus est mort pour nous racheter. Et c'est ce que nous voyons du verset 7 au verset 9. Tout ce que nous faisons, que nous mourions, que nous vivions, que nous adorions le dimanche, le lundi, le jeudi, que nous donnions la dîme ou que nous donnions plus que la dîme, c'est pour le Seigneur que nous le faisons. Parce que nous lui sommes redevables. Parce qu'il a payé le prix qu'aucun de nous ne pouvait payer. Il nous a rachetés de nos fautes et de notre péché par son sang précieux, afin de lui appartenir, afin qu'il soit notre Seigneur. Alors, fuyons les querelles et recherchons activement l'unité et l'amour fraternel, sachant que Christ nous a tous rachetés pour lui appartenir. Sachant que tout ce que nous faisons pour lui, comme un signe de reconnaissance et d'adoration. Troisième et dernière motivation pour rechercher activement l'unité et fuir le querelle, et fuir les querelles, versets 10 à 12. Redevable au Seigneur, car il est Seigneur et juge suprême. C'est notre dernier point. Redevable au Seigneur, car il est Seigneur et juge suprême. L'un des synonymes d'être redevable est être assujetti, être soumis. Et en tant que citoyen belge, nous sommes tous redevables. Nous sommes tous soumis à la première ministre, Sophie Wilmès. Lorsqu'elle a décidé et annoncé le confinement pour toute la Belgique face au coronavirus, nous avons tous obéi, car nous lui sommes redevables, nous lui sommes soumis, nous lui sommes assujettis en quelque sorte. Et nous avons obéi sans nous préoccuper de savoir qui ferait quoi. Est-ce que mon voisin respectera le confinement ou pas ? Et en fait, cela n'est pas notre affaire, ça ne nous regarde pas. C'est celui des autorités. Si certains décident de ne pas respecter le confinement, eh bien, le gouvernement, les autorités se chargeront de prendre les mesures nécessaires à l'encontre de cette personne. Tout ce qui nous est demandé, c'est d'obéir, parce que nous sommes redevables, parce que nous sommes soumis aux autorités. Et de la même manière, Dieu est le chef suprême devant qui tout genou fléchira. Et il nous ordonne, il nous commande de ne pas juger, de ne pas mépriser notre frère en se préoccupant de ce qu'il pourrait faire ou ne pas faire. Ce n'est pas notre affaire, mais c'est celle de Dieu qui est le seul juge et devant qui nous rendrons tous des comptes. Et donc, sachant cela, sachant que Dieu est le chef, le souverain, le juge suprême, recherchons activement l'unité et l'amour, car nous sommes redevables au Seigneur, nous sommes soumis au Seigneur, car il est Seigneur et juge suprême, et qu'il nous demande de rechercher activement l'amour et l'unité. Avant de conclure, j'aimerais m'adresser à nos amis non-chrétiens qui nous écouteraient. Le passage que nous avons étudié ensemble s'adresse également à vous. Oui, il ne concerne pas uniquement les chrétiens. En effet, nous voyons au verset 9 que Christ est mort et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Christ est votre Seigneur. Que vous le reconnaissiez ou non, la Bible nous apprend qu'il est Seigneur et qu'il règne. Le verset 12 nous apprend aussi que chacun, chrétien comme non-chrétien, rendront des comptes devant Dieu pour leur vie le jour du jugement. Et mes amis, peut-être que ce jour est plus proche que vous ne le pensez. Alors que le coronavirus fait rage en ce moment même et fait de nombreuses victimes à travers le monde car il n'y a pas encore de remède, de vaccin, eh bien sachez que Dieu a offert une solution. Il a offert un remède, il a offert un vaccin qui sauve d'un fléau infiniment pire et infiniment plus grave que le coronavirus. Il s'agit de la mort éternelle. Et la solution à ce fléau qui nous est offerte, ce remède, ce vaccin à ce fléau de la mort éternelle, eh bien, c'est Jésus-Christ. Et c'est gratuit. Donc, acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, car il est la solution, il est le remède, il est le vaccin que Dieu vous offre pour vous protéger, pour vous immuniser de la colère et du jugement à venir, pour éviter la mort éternelle, pour vivre éternellement en Jésus. Qu'avons-nous vu ensemble? Nous avons vu que nous sommes redevables au Seigneur pour trois raisons. Car il nous a accueillis, car il nous a rachetés au prix du sang précieux de son Fils Jésus, car il est souverain et juge suprême. Et cela doit nous inciter à rechercher activement l'unité et l'amour entre nous. Ne considérons pas et ne vivons pas l'Église comme certains concours télévisés populaires comme Top Chef, où nous serions les uns contre les autres. Non, l'Église n'est pas un concours top théologien ou top chrétien à la recherche du meilleur chrétien. Non, considérons et vivons l'Église plutôt comme une grande famille dans laquelle nous sommes appelés à rechercher activement l'unité et l'amour fraternel, l'aide et le soutien mutuel. Nous sommes tous redevables au Seigneur. Prions. Seigneur, nous te remercions de ce que nous te sommes infiniment redevables. Merci de nous avoir accueillis, merci de nous avoir rachetés par le sang précieux de ton Fils afin de t'appartenir. Merci parce que tu es le Dieu souverain et suprême. Et nous te prions pour que ces vérités transforment radicalement la façon dont nous vivons nos relations au sein de l'Église, afin de fuir les querelles et les divisions, pour nous mettre à la recherche active de l'unité et de l'amour entre nous. Et alors que le coronavirus fait des victimes en ce moment même, nous te demandons de faire grâce, Père, que tu puisses dans ta compassion sauver par ta bonne nouvelle les hommes et les femmes qui ne connaissent pas encore Jésus, le Seigneur et Sauveur suprême. Amen.